Bienvenue sur Insider au cinéma, le podcast. On est ravis de vous accueillir pour le premier épisode de ce nouveau rendez-vous consacré à l'histoire de la surf industrie européenne et à celles et ceux qui l'ont créé. Des personnes qui ont tout en commun d'avoir eu de l'audace, une vision, du talent et à qui on doit ce marché européen de la glisse. Et ça tombe bien, notre premier invité symbolise tout ça à la fois.
Exactement Romain, comme tu le dis, vision, audace, talent. Notre invité, il a été un des pères fondateurs de la surf industrie européenne, le premier à se lancer dans l'importation de produits surf sur le vieux continent alors que à ce moment-là le surf était assez balbutiement. Il est à l'origine de la création de l'Eurocima. Donc tout ça dans le business, mais pas que, il a été aussi partie prenante dans le sport, la Fédération française, et il a créé l'ASP Europe. C'est monsieur François Payot.
Bonjour, bienvenue.
Merci, bah écoute, merci de nous accueillir chez toi et bienvenue à toi dans l'émission. On l'a dit, tu as été pionnier et fondateur de la surf industrie européenne. On va donc reparcourir ta riche et longue carrière, mais en partant du tout début, parce qu'a priori tu n'étais pas disposé, au vu de ton contexte familial et tes études, à faire carrière dans ce milieu.
C'est exact. Enfin, puisque j'ai grandi, mon père était médecin à Versailles. J'ai grandi plutôt en région parisienne que près des vagues. Par contre, ma mère étant d'origine d'ici, on venait passer nos vacances ici. Et très tôt, on a découvert l'océan. À cette époque-là, l'océan était plus considéré comme quelque chose de dangereux que comme un parc d'attractions pour en tirer du plaisir. Et ce qui fait que les enfants les mettaient plutôt au bord du lac, à Osgorf, il y a un grand lac, qu'on les amenait à la mer, ce qu'on appelait la mer sauvage en plus, si vous voulez. Mais peu à peu, on a vu les premiers surfeurs étrangers arriver. Et on se s'est aperçu qu'il y avait des planches de surf qui étaient des planches à l'époque très, très grandes. Donc, nous, on était un peu jeunes pour pouvoir porter ces planches, mais on a tout de suite été séduits par ce qu'ils arrivaient à tirer de l'océan. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Il y avait un premier club de surf à la plage sud d'Osgorf, qui aujourd'hui serait considéré un peu comme le Children's Playground, c'est-à-dire que c'est l'endroit où on met les débutants, mais à l'époque, ça nous paraissait déjà un endroit extraordinaire. Et surtout qu'à l'époque, les planches étant très lourdes, on ne pouvait pas nous les porter ni sur les vélos mobilettes, donc les planches restaient au club, on en prenait une à deux et on allait surfer juste devant à la suite d'Osgorf. C'est comme ça qu'on a fait nos premiers pas dans le monde de la glisse.
Donc là, on était en quelle année?
Oula, on devait être, alors ça c'est pas gentil pour moi, mais on devait être disons des années 70, soit 70, autour des années 70.
Donc, comme le disait Romain, le contexte familial fait que t'as fait des études pas forcément dans le business.
Pas du tout, non, puisque j'ai commencé à faire des études de médecine, parce que mon père était médecin, mon grand-père était médecin, mon arrière-grand-père était médecin. Donc, personne n'imaginait autre chose pour moi. Ils m'ont viré rapidement, parce que j'étais devenu surfeur entre temps, ce qui fait que je passais quand même beaucoup de temps auprès de l'océan. Donc là, au départ, j'étais à Paris. Après, je suis venu à Bordeaux faire des études d'architecture, que j'ai fait pendant pas mal d'années. Et au moment où j'allais devenir architecte, et ben c'est là où j'étais un peu feignant, il faut bien le dire, et j'aimais beaucoup l'océan. Donc là, j'ai dévié vers la carrière de surf business, on va dire, avec l'arrivée de Maurice Coll, qui était venu lui donc en 1980 faire les championnats du monde de surf en France. Et je me suis lié d'amitié avec ce personnage. Et donc il est revenu 2 ans plus tard, en voulant s'installer en France et dans les bagages la licence Rip Curl pour les planches de surf. Et comme il ne parlait pas français, il m'a demandé si je voulais bien l'aider à faire sa société. J'ai dit bien avec plaisir. Et donc on était au début de l'été. J'ai pensé que ça durerait de monter sa boîte. Ça allait me durer, je veux dire, 2-3 mois et qu'après j'allais repartir vers l'architecture. Et 30 ans après, j'y étais encore. Comme quoi, la première vision n'a pas été vraiment la bonne.
Est-ce que tu avais déjà des velléités de développer un business autour du surf ou ça s'est vraiment fait à partir de la rencontre avec Maurice Coll?
Alors, je n'ai aucune velléité à aucun moment que ce soit. C'était parce que j'étais feignant. Donc, je me suis aperçu que travailler dans le surf, c'était quand même plus sympa que faire autre chose. Et à aucun moment, il y a eu une vision, disons, de prophétique du développement de ces sports-là. C'était vraiment on vivait au jour le jour et c'était plus pour vivre notre passion que pour faire un métier ou développer quoi que ce soit. C'était très...
Donc tu disais que ça a commencé avec la licence Rip Curl pour les planches de surf.
Voilà.
Donc Maurice shapait les planches.
Maurice shapait les planches. Ils m'ont mis dans l'atelier de Shep. Ils ont tout de suite vu que c'était pas bon. J'allais leur coûter, alors quel soit le poste où ils me mettaient, que ce soit shaper, ponceur ou quoi, ça, c'est, le résultat était catastrophique. Donc ils m'ont dit, il faut un gars pour emballer les planches, pour les vendre et pour faire les factures, et c'était moi. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a mis de l'autre côté, pas du côté atelier, mais du côté gestion de l'entreprise.
Et à quel moment ça part des planches de surf, et à quel moment on tourne vers les combinaisons et le textile pour Rip Curl?
Alors, ce que vous avez dit au départ est un peu faux, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Alan Tigan, qui déjà existait et importait les combinaisons Rip Curl et les shorts Quicksilver. Donc, on n'a pas été les premiers à importer du matériel et à faire du business. Alan en a fait avant nous. Alors, pourquoi tout d'un coup je suis devenu importateur de combinaisons de surf et je veux dire, c'est que le franc français a été dévalué. Et ce qui fait que Alan Tigan ne pouvait plus importer ses produits d'Australie du fait qu'il coûtait 2-3 fois plus cher que l'année précédente. Et à partir de ce moment-là, donc, il a arrêté d'importer les produits australiens. Il faisait déjà quelques shorts Quicksilver en France aussi, donc il a continué un peu les shorts Quicksilver, mais il a arrêté entièrement les combis Rip Curl. Donc, les Australiens sont arrivés en France, bien entendu, puisque l'Australie étant un tout petit marché, il faut bien voir que, bon, il y a deux mondes dans le surf au départ. Il y a les États-Unis, bien entendu, en premier, et il y a l'Australie qui arrive après. Les Ricains, ils ont un marché de 200 millions, 300 millions de personnes. Ils étaient absolument pas intéressés à ce qui se passait en dehors de leurs frontières. Donc, si vous vouliez importer des marques américaines, vous n'aviez aucune aide. Par contre, l'Australie, ils sont 20 millions, en comptant les lapins et les kangourous, hein, grosso modo. Donc, ils ont besoin des marchés extérieurs. Donc, toutes les marques australiennes ont été énormément aidées par le gouvernement australien pour promouvoir leur marque à l'extérieur. C'est pour ça que les marques australiennes, à la fin, ont dominé le monde, puisque aux États-Unis, il y avait des marques qui sont restées américaines, alors que les marques australiennes comme Rip Curl, Quicksilver et Billabong sont devenues mondiales. Et donc, ils sont arrivés en France et ils ne connaissaient que moi, puisque à l'époque, il y avait personne. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont proposé de reprendre la licence Rip Curl. Donc, moi, j'avais pas d'argent. J'aurais dit, écoutez, avec votre argent et mon travail, on va arriver à faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé à devenir... Alors, on a fait Rip Curl, on a tout fait, quoi. On a fait Rip Curl, Quicksilver et Billabong. C'est nous qui avons relancé toutes ces marques sur le marché européen.
Et tu avais quel âge à ce moment-là?
Alors, je devais avoir 30 ans, je crois. 28, 30 ans, à peu près.
Et donc, à l'époque, chaque marque avait quand même ses produits. Il y avait encore une...
Oui, alors, voilà. Au début, non, c'était très facile parce que Rip Curl faisait les combis et Quicksilver les shorts, ok. Et ce qui a lancé, vraiment fait éclater le marché de la glisse en France, c'est la planche à voile. C'est-à-dire que le surf était quand même limité à cette côte ouest, je veux dire sud-ouest, on va dire, et n'était pas du tout connu, je veux dire dans le reste de la France et on va dire pratiquement dans le reste de l'Europe. Par contre, la planche à voile a fait exploser les sports de glisse sur toutes les côtes françaises, c'est-à-dire Bretagne, Méditerranée, tout ça. Et comme la planche à voile avait comme référence le surf, c'est-à-dire comme sport d'origine, les gens qui faisaient de la planche à voile ont voulu remonter à l'origine et beaucoup sont devenus des surfeurs. Si on ajoute à ça le snowboard, qui est dans la montagne, ou la glisse, exactement, il y a eu le même phénomène. Les gars, je les voyais dans les interviews, dans les magazines, ils disaient qu'ils faisaient du snowboard, l'hiver, et pour compléter, et je vais à Osgore l'été faire du surf. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, le surf est devenu le sport référence de la glisse et deux, le marché s'est développé.
Toi, il a fallu faire un choix au bout d'un moment entre les trois marques. Tu as choisi Rip Curl, pour quelle raison?
Parce que c'était la première avec laquelle j'avais commencé. Donc, j'ai fait Rip Curl après. Quicksilver est arrivé quand Alan Tagen a arrêté de produire. Donc, Quicksilver est arrivé après. Et après, bon, donc quand j'ai rendu, j'ai donné Quicksilver à l'équipe de Jeff Ackman, comment il s'appelait,
je me rappelle plus, Harry
Hodge et tout ça, je leur ai donné de la marque. Et là, c'est Gordon que je connaissais parce que le monde du surf était assez petit, donc celui qui a créé Billabong est venu me voir et m'a dit que François, est-ce que tu peux lancer Billabong en Europe, parce qu'ils avaient eu une expérience en Angleterre qui avait pas très bien marché. Et donc on a établi Billabong sur le marché européen aussi.
Et donc toi, tu fais le choix de garder Rip Curl. Alors là, comment se passe le lancement, puisque tu viens de dire le surf est finalement pas si gros par rapport à la planche à voile et d'autres marchés?
Non, mais de toute façon, ils font référence. Et Rip Curl était quand même... Bon, il y a une autre marque il y avait deux marques de combi à l'époque, hein. Il y avait O'Neill et Rip Curl. O'Neill ayant l'antécédent étant la marque américaine. Et comme j'ai expliqué, les Américains n'étant pas du tout doués pour l'exportation, n'avaient pas d'intérêt à l'exportation. C'est Rip Curl qui a pris un peu le marché mondial. Et on a été aidés et c'était relativement facile. C'est-à-dire que on avait des surfeurs. Moi, quand j'ai commencé à surfer, j'avais une combinaison de plongée. C'est-à-dire avec un truc qui me remontait avec de trucs, je ne pouvais pas bouger les bras et tout ça. Donc, dès qu'on a apporté des nouveaux tissus, des nouveaux matériaux qui permettaient de pratiquer le surf plus longtemps et dans de meilleures conditions, ça a été relativement facile. Et le fait qu'on était des surfeurs et qu'on répondait à notre propre demande, c'était aussi facile d'estimer les produits qui marchaient ou qui ne marchaient pas. Et puis, au début, c'était très, très restreint. Le début, quand mon stock était plus petit que cette salle-là. Donc ça a vraiment progressé alors de façon exponentielle, je dis pas qu'on vendait les combinaisons sur la plage, mais on se les passait. Après, il y a eu quelques surf shops, bien sûr, qui ne payaient pas, qui nous ont commandé des trucs, mais je veux dire, ça a été très comme toute industrie qui lance, ça a été très de bouche à oreille. La première chose, c'était enfin, j'ai jamais senti une difficulté à écouler nos produits.
Bien sûr, Rip Curl, comme tu le disais, il y a une croissance exponentielle. On a parlé de croissance à deux chiffres pendant des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Et toi, t'as aussi pris du galon, on va dire, dans cette organisation.
Alors oui. Alors d'abord, on avait Rip Curl et Quicksilver. À partir du moment où on a commencé à faire des t-shirts, c'est-à-dire que le marché ayant explosé, les deux marques ont commencé à faire des produits qui étaient en concurrence, donc il a fallu se séparer d'une marque. Donc ça a été bon, c'est là où il y a eu la scission s'est faite. Donc après, on ne faisait plus que les produits Rip Curl. Alors au niveau des produits Rip Curl, effectivement, moi je m'occupais de la France parce qu'ils avaient des importateurs dans les autres pays. Et à partir du moment où moi j'avais fait une association avec eux, alors que les autres étaient des simples importateurs, ça a été moi qui a repris toute l'Europe. Je suis arrivé relativement facilement à reprendre toute l'Europe. Il faut bien dire aussi que le marché commun se crée et qu'il y avait des facilités qui n'étaient pas forcément dans les années précédentes. Il y avait une monnaie qui commençait à devenir commune. Enfin, il y avait des tas d'avantages à avoir plus qu'un seul bureau en Europe. Et je veux dire, la réponse, pourquoi Osgore? Parce que c'est quand même considéré comme l'endroit en Europe où il y a les meilleures vagues. Donc, il y avait une question d'image. Et on m'a souvent, alors au niveau bancaire, au niveau institutionnel, il y a souvent des gens qui m'ont demandé, mais pourquoi vous n'allez pas vous installer dans un endroit plus central? C'était difficile à l'époque de leur faire comprendre que l'image était plus importante que la localisation pour qu'un camion, on mettait peut-être un jour de plus pour livrer Marseille, mais par rapport à l'image, ça n'avait aucune importance pour nous.
D'ailleurs, tu parles du système bancaire. Forcément, tu as dû faire des emprunts.
Parce que personne ne voulait nous prêter de l'argent.
Voilà, c'était ma question.
Le premier, ça a été mon père. La première année, il m'avait donné... Alors, entre 3 000 euros, je crois. C'est-à-dire, j'essaie de convertir ce que c'était en francs. Non, c'est 20 000 francs, peut-être, enfin 3 000 euros. Et la deuxième année, donc, on avait énormément grossi. Les banques ne voulaient rien nous prêter. Alors, les Australiens ont mis l'argent en compte courant bloqué et les banques nous ont prêté l'argent. Mais au départ, institutionnellement parlant, que ce soit au niveau des mairies, de l'environnement bancaire et de l'environnement économique, personne ne croyait au surf et dans la glisse. De voir des gars en short et en t-shirt qui rentraient dans la banque, ça leur faisait vraiment peur. Alors qu'après, bon, tout le monde s'est retourné, la ville nous a aidés, et les banquiers venaient dans nos bureaux pour faire visiter à leurs autres clients. Regardez, on est la banque de ces gens-là, ça prouve notre ouverture d'esprit. Parce qu'ils ne sont pas forcément comme les autres. Ils ont des drôles de têtes et ils s'habillent de façon assez drôle. Voilà. Et la rencontre avec le monde conventionnel était intéressante. Alors, ce que je dis au départ, moi, j'engageais que des surfeurs. C'est-à-dire, les gars, mon comptable, je l'ai engagé, il était en train de regarder les vagues. Il est en train de regarder les vagues sur le bord de la plage. Il dit, tu sais écrire et compter? Il dit, oui, tu viens bosser avec nous. Enfin, puis à un moment, ça n'allait plus. Quand le comptable, il a additionné les dates au lieu d'additionner les prix, on a dit qu'il fallait des vrais comptables. Et là, on a engagé des gens du monde extérieur. Et c'était rigolo parce que moi, je me rappelle avoir engagé une femme qui s'appelait Mado Starots, qui a été la vraie directrice générale de Rip Curl. Quand elle est arrivée, elle était en tailleur avec une petite jupe. Et donc, elle arrive avec son petit sac à main, elle est au milieu de gars en short, en t-shirt. Nous, on avait nos chiens qui habitaient avec nous. Pour le monde conventionnel, c'était très, très surprenant. Mais au bout d'une semaine, elle était habillée en t-shirt. Notre monde est plus fort que le leur, quand même. Donc, au début, c'est nous qui, ils prennent vite nos habitudes.
Oui, c'est plus facile de passer du costard au t-shirt que l'inverse.
Bien sûr. Et c'était beaucoup plus dans l'esprit des sociétés anglo-saxonnes. à savoir que les sociétés françaises, latines, ont toujours un peu de retard à ce niveau-là. C'est-à-dire que, quand vous allez aux États-Unis, des boîtes où les gens sont habillés en décontract toute la semaine et pas en chemise cravate, il y en a partout. À l'époque, il y en avait partout. En France, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Mais je veux dire, c'était ça. Non, ça a été une évolution intéressante au niveau de la structure de la société. Comment un groupe de surfeurs, au bout d'un moment, s'ouvre sur le monde extérieur pour avoir, pour accéder à, pour, parce que la société progresse. Au départ, on s'en foutait. Je veux dire, la responsabilité, c'est que nous. Mais quand il y a des gens qui commencent à travailler, vous avez d'autres responsabilités et vous devez vous adapter. C'est l'explosion du marché. Et ça a été une aventure très intéressante.
Alors, on l'a dit, le marché, il est parti très, très, très vite et personne n'avait pu imaginer un peu ça. Billabong, Quicksilver et Rip Curl ont démarré plus ou moins ensemble. Mais là, vous étiez clairement concurrents. Comment ça se passait d'une marque à l'autre et entre les dirigeants? Est-ce que c'était un peu, est-ce que c'était la guerre?
Alors, ce que j'expliquais, moi, c'est qu'on était partenaires au niveau de la direction. C'est-à-dire que nous, que ce soit Billabong, Quicksilver ou Rip Curl, notre but, c'était la promotion de la glisse et du surf. Que nos représentants sur le terrain soient concurrents, c'est possible. Mais moi, je me suis toujours très bien entendu, que ce soit avec Bernard, moi j'étais PDG de Rip Curl, lui de Quicksilver, et même Derek O'Neill, qui était PDG de Billabong, on s'est toujours très bien entendu. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Après que mon rep essaye de vendre son t-shirt plutôt que le rep de Quicksilver Billabong, ça je le comprenais très bien. Mais nous, on avait plutôt des buts communs.
On en vient donc à l'explosion et toi, forcément, tu prends le marché européen de Rip Curl et tu t'es propulsé à la tête de Rip Curl international. Comment ça s'est passé? Parce que un Frenchie à la tête d'une marque.
Alors, l'avantage des Frenchies, alors bon, ça, c'est beaucoup plus tard, puisque je ne me rappelle pas en quelle année je suis allé, je crois 2005. C'est beaucoup plus tard. Les Frenchies ont un énorme avantage. C'est que les Frenchies, ils gèrent l'Europe où il y a plusieurs pays. Alors, il y avait toujours plusieurs currencies et tout ça. Alors que ce soit les Américains ou les Australiens, ils gèrent des territoires où il y a une monnaie, une langue. Donc, pour passer à un niveau global monde, c'est sûr que des Frenchies, enfin des Européens, parce que pas forcément des Frenchies, ont un énorme avantage. Ils ont déjà vécu cette situation de plusieurs, ethnies, mais de plusieurs pays, de plusieurs monnaies, de plusieurs langues. Donc effectivement, quand je suis devenu PDG de Rip Curl Monde, et Bernard, qui a été donc le PDG de Quicksilver Europe, est devenu PDG de Quicksilver Monde. Hein, donc c'était des Français qui étaient à la tête du surf mondial. Voilà.
Tu l'as dit, on est allé un peu vite. Avant tout ça, il y a eu quand même d'autres aventures parallèles à Rip Curl. Que sont, on l'a dit tout à l'heure, enfin Rémi l'a dit en introduction, tu as eu un rôle important dans la création de l'ASP Europe notamment.
Ouais, alors à mon niveau, j'avais une concession j'avais quand même une vision qu'il y avait un monde qui se créait et que pour cela il fallait différentes branches. Alors j'ai plus été moi vraiment à l'origine de la côté sportif par la création de l'ASP Europe, l'Eurosima, c'est-à-dire qui gérait l'ensemble de l'industrie. Il y avait un salon Glisse Expo, c'est eux qui ont vraiment été à l'origine, c'est eux qui ont eu l'idée. Et après dans cette idée, effectivement, ils nous ont fédérés en prenant le PDG de Quicksilver. Il y avait donc Michel Hoff, on était cinq, je crois. À être au bord de ce truc-là. Mais l'idée n'est pas venue de moi ou de l'industrie. C'est ceux qui faisaient le salon qui ont eu cette excellente idée. Et comme il y avait un truc qui s'appelait CIMA aux États-Unis, on a créé l'Eurosima. Après, moi, je savais qu'on devait se créer des héros si on voulait que vraiment le sport devienne, que ce soit plus une fashion, mais vraiment un sport au niveau national. Et pour ça, il fallait des héros. Donc, je me suis mis comme mission d'avoir un surfeur français, anglais, portugais et espagnol dans l'élite mondiale. Ça a été mon objectif. Et c'est pour ça que j'ai créé l'ASP et le PSA, je veux dire, qui devaient être les différentes marches d'une échelle qui montrait jusqu'à l'élite mondiale. Et ça a été, à une époque, je faisais tous les week-ends, j'étais à travers l'Europe en train de faire une compétition de surf.
Qui étaient tes héros alors? Portugais, français et...
Ah ben je ne les connaissais pas parce qu'ils n'existaient pas encore.
D'accord.
Et à savoir, bon, je sais, alors nous, là, ça paraît idiot, mais la France, on a eu de la chance, ce qu'on avait les dom-toms, parce que une des conditions pour c'était la pratique régulière du sport. Et les jeunes en France à l'époque, encore c'était vis-à-vis des parents, c'était très difficile d'envoyer de jeunes surfeurs à l'eau en plein hiver. Donc les jeunes français métropolitains avaient un désavantage par rapport à ceux qui venaient de la Réunion ou des Antilles. Et on a bien vu que les premiers grands surfeurs européens, je veux dire, venaient pratiquement tous, Didier Peter, il y avait à l'époque, alors ici, on a eu Bernard Capdepon et Gérard Abadie qui ont été champions d'Europe, mais au niveau mondial, c'est vraiment les générations, je veux dire, on voit bien Jérémy Flores aujourd'hui, il était à la Réunion, même à Madagascar avec moi, mais il venait pas de la... Johan Duru est le premier, je pense, avoir été en hiver ici, qui venait pas des îles, qui a touché l'élite mondiale.
Et sur la création de l'ASP Europe, on en parlait un peu en off tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait les premières entités sportives, c'était les fédérations nationales, ouais. La fédération française dont tu as fait partie.
Et non, je sais pas. J'étais président de l'Osgore Surf Club.
Okay.
La fédération française, ils m'ont viré parce qu'il y avait légalement parlant, il y avait une opposition entre le côté, disons, professionnel et le côté amateur. Et que la fédération française n'aimait pas trop l'ombre que lui faisait, disons, le côté professionnel ASP, PSA. Alors que moi, j'étais calqué sur les autres continents au niveau mondial. Donc, je savais bien qu'à la fin, on allait gagner. Mais la fédération française, pour moi, était importante parce qu'elle pouvait, leur rôle, c'était de détecter des jeunes surfeurs au niveau des clubs et de les amener à un niveau où moi, je les prenais pour les amener à travers l'Europe et peut-être pas à travers le monde. Donc, il fallait cette complémentarité entre les deux organisations. Et bon, ceux qui étaient à l'époque à la fédération française n'avaient pas forcément cette vision, et donc nous ont mis quelques bâtons dans les roues. Mais bon, enfin, l'histoire étant plus forte, à la fin, la hiérarchie s'est faite. Et aujourd'hui, le président de l'ISA, Fernando Aguirre, qui était un de mes amis, je veux dire, est arrivé au but ultime, c'est-à-dire amener le surf aux Jeux Olympiques. Et effectivement, aujourd'hui, le surf fait partie des sports, je veux dire, je n'allais pas dire comme le football, c'est-à-dire que ça n'a pas cette notoriété, mais des sports qui sont arrivés à un retentissement mondial qui va lui permettre de se développer dans des pays où forcément il n'y avait pas forcément d'aide, je veux dire, permettre de bien se développer, je pense à l'Afrique ou à l'Asie, des pays comme ça. Mais la Fédération française, elle, a fait une très bonne chose puisque la formation française est excellente. Et je pense qu'aujourd'hui, si un jeune a une chance d'arriver à un haut niveau, il a la structure nécessaire pour progresser à tous les niveaux et ça, grâce en grande partie à la Fédé.
Pour revenir sur l'ASP Europe, donc l'ASP Monde existait en Australie et aux États-Unis. Comment ça s'est passé de gérer avec les Anglo-Saxons, de développer une structure européenne avec ses propres contests et
développer
tout ça?
Développer la structure européenne, ça n'a pas été dur. Il y avait un gars qui s'appelait Jacques Alacano qui faisait des compètes à l'époque. Mais Jacques, il avait d'autres activités. Donc moi, j'ai créé la compétition à Osgore, je crois en 87 ou ainsi de suite. J'ai tout de suite été copié par Biarritz et on a eu ces trois épreuves qu'on a tout de suite inscrites au Tour mondial. Et à partir de ce moment-là, on était devenu une entité importante du surf mondial parce que on occupait une bonne période de la saison et il fallait que je crée le circuit alors EPSA. Qui allait permettre à mes surfeurs européens, moi, de venir dans l'élite mondiale. Parce qu'à ce niveau-là, un Européen, bon, il passait pas un tour, jamais. Donc, on a créé le PSA autour et on est devenu la plus grande organisation de surf au monde. C'est nous qui avions le plus de compètes que tout le monde. Et il fallait, alors, dans le PSA, j'ai eu des problèmes au départ parce que si j'avais des Australiens ou des Sud-Africains qui venaient, ils me battaient toujours les Européens. Et donc, ceux-là n'avaient pas assez d'argent après pour aller au tour suivant, je veux dire à l'épreuve suivante. Donc j'avais créé deux strates, c'est-à-dire j'avais une épreuve avec que des Européens et les meilleurs de ces Européens allaient dans l'épreuve contre les étrangers qui étaient là. Et après donc j'avais trois barreaux à mon échelle pour arriver au niveau mondial.
Toujours dans cette idée de former des stars,
de permettre à des jeunes qui commencent. De monter de façon, disons, graduelle les étapes pour arriver au niveau mondial.
Et est-ce que tu dissociais toute cette aventure ASP Europe de Rip Curl où le but était quand même de pouvoir faire un peu briller la marque à travers le circuit et certains événements?
Alors, c'était faire briller le surf, pas forcément la marque, parce que la marque, je savais que la marque allait tirer profit du fait que le surf progresse. Voilà, ça, c'était une vision qui était beaucoup plus globale. Et je veux dire, et bon, alors j'organisais des compétitions pour les marques adverses. Hein, je veux dire, ça ne me gênait absolument pas. Mais à partir du moment où dans un village les gens découvraient le surf, après, je veux dire, Rip Curl, Quicksilver, Billabong, je veux dire, c'était tout le monde en profitait, quoi. Donc c'était le but, c'était vraiment de faire progresser, de créer des héros au niveau national, parce qu'on a plus, en France, on aura plus de facilité à s'identifier à Jean ou à Pierre que à Peter ou à John, en disant si Jean et Pierre qui habitent le village d'à côté a réussi à monter ces échelons, moi je peux le faire aussi. Voilà, c'est tout. C'était dans cette vision là.
Ouais, puis vous plantiez aussi des petites graines dans chaque état, dans chaque ville où vous alliez.
Ouais. Donc, alors, je veux dire, en France, c'était. Enfin, ça n'a pas été. Enfin, on n'a pas l'impression que ça a été si dur que ça. Je veux dire, au départ, les gens comprenaient rien au surf. Après, il y avait plus en plus de gamins dans les écoles. Et aujourd'hui, les plages sont saturées de trucs. Donc, s'il y a une mission qu'on a réussi, celle-là, c'est, disons, la vulgarisation du surf.
Évangéliser.
Voilà, c'est tout.
Et le PSA était très fort parce que c'est pas contenté du sud-ouest de la France. Il y avait une épreuve à la torche.
C'était européen. C'était European Professional Surfing Association. On partait. Moi, j'avais 4 pays qui me concernaient. Donc, c'était l'Angleterre, France, Espagne et Portugal, la façade de l'Atlantique. J'ai même organisé des compètes en Hollande. J'ai organisé des compètes
en Italie.
J'étais le premier à organiser des compètes en Italie. Donc, on essaie d'ouvrir au maximum les frontières. Voilà, que le surf soit. Et aujourd'hui, en Méditerranée, vous avez plein de surfeurs. Hein, c'est-à-dire, et moi, partout dans le monde, je voyage pas mal, il faut bien dire. Le nombre de surfeurs italiens qu'il y a, c'est impressionnant.
Ouais, c'est et hollandais aussi.
Hollandais, ouais. Enfin, moi, j'en rencontre moins, mais je veux dire, des Italiens, j'étais quand même impressionné par le nombre de surfeurs, que ce soit en Amérique du Sud ou en Indonésie, que je rencontre. Hein.
Là, on est chez toi pour l'émission et tout à l'heure, on voyait ta l'affiche d'une compétition Cana Beach qui s'est déroulée à la Torche en 96.
Ouais.
Et là, il y a une raison particulière ou un souvenir particulier par rapport à cette compétition.
Ah bah, Fred était un copain, puis à un moment, il a eu des problèmes, donc il m'avait demandé de participer à Cana Beach. Donc effectivement, je veux dire, comme je dis, quand tout le monde était lié, Fred avait créé pratiquement la première marque de surf française, enfin très particulière, et donc moi j'ai participé à un moment à cette aventure.
D'accord, ok.
Ben, enfin, tout est petit, hein, je veux dire, j'avais la licence Town & Country aussi, enfin je veux dire, il y a peu de marques qui sont pas, au départ c'était un petit monde, il y a peu de marques qui sont passées loin de nous, je vois pas une grande marque qu'on n'aurait pas approché ou on n'aurait pas aidé à certains moments.
Donc là, on parlait de la création de l'ASP Europe. On est donc à la fin des années 80, je pense. Comment vous avez commencé à communiquer sur la marque Rip Curl en dehors des événements? Genre, est-ce que tu te souviens du premier achat média, par exemple, de la première pub que vous avez achetée pour promouvoir la marque?
Ouais, alors au départ, il y avait que Surf Session qui existait.
Voilà. Mais ça a été créé en 86, donc.
On n'a pas communiqué avant.
Okay.
C'est-à-dire, on n'a pas communiqué avant. Au départ, le premier vraiment à faire le truc, c'était Surf Session. Après, le problème, c'est que Surf Session était un monopole et la pub était trop chère et que on n'arrivait pas, je veux dire, ça nous coûtait très cher de mettre une pub. Donc, il y a eu d'autres journaux et j'ai racheté un journal. Il y a eu donc Surf Trip, Trip Surf, je crois, et moi j'avais racheté un journal qui s'appelait Surf Saga pour créer la concurrence. Voilà. Et en ayant créé la concurrence, ça a fait baisser les prix de la publicité et ça a permis à d'autres petites marques d'éclore, ce qui n'était pas possible avant. Donc, ça a été notre premier circuit de communication. Après, avec les compétitions, on est arrivé à toucher les masses médias. Et en tant qu'ASP, j'étais assez fier parce que j'avais eu un contrat avec TF1 et chaque épreuve recevait 30 000 euros, je veux dire, de TF1 pour avoir l'exclusivité. Donc, ça a été une autre façon de communiquer.
Et on se rappelle aussi, pendant chaque épreuve, il y avait un reportage d'une heure au moins sur chaque épreuve, une heure sur la cano,
C'est TF1, ouais. C'est le contrat que j'avais signé avec TF1. Et puis alors, ce qui a apporté beaucoup de monde au surf aussi, hein, c'est Kelly Slater qui va jouer dans Alerte à Malibu. Hein, faut être très honnête. Quelquefois, il y a des choses que vous contrôlez pas et qui vous avez travaillé pendant longtemps. Et puis il y a un événement qui fait que vous avez beaucoup plus de retombées que vous ne présumez. Et là, quand Kelly Slater était dans Alerte à Malibu, là, c'est là où on a eu le plus de monde pour les compétitions de surf sur les plages. Hein. Ça, c'est sûr. Toutes les jeunes filles, tout ça, venaient voir Kelly. Kelly allait surfer. Voilà. Les deux gros héros ici en France, hein, ça a été Tom Curran, Kelly Slater. D'ailleurs, c'est les deux personnes qui nous ont attiré le plus de monde.
Donc, ouais, le Rip Curl Pro Osgore, ça a été une épreuve Ouais, c'était pendant des années, mondial. Ouais, exactement.
Ouais.
Après, ça a été une épreuve QS.
Et depuis... Non, ça a été CT, et puis après, c'est pas... Après, on a fait, nous, on a fait le, dans la répartition des épreuves mondiales. Je veux dire, donc, nous, on avait Osgore, Quicksilver avait Biarritz, et puis une marque, une autre marque devait avoir peut-être la Cano. Et après, il a fallu un peu se réduire. Et puis, nous, on a créé The Search City. C'était le Search City. Et donc, on a laissé, effectivement, l'épreuve d'Osgore est passée au Portugal. C'est-à-dire, autant Osgore, je veux dire, les villes, ils me filaient, ils me promettaient 30 000 euros ou 50 000 euros de promotion si je mettais le nom d'Osgore et puis ils me les payaient pas. Pas Osgore, mais Senios, ils ne les payaient pas. Le Portugal est arrivé, ils m'ont dit péniche, ils m'ont donné 1 million pour monter la compétition là-bas. Et je veux dire, ça change un peu les donnes. Et on avait été élu meilleure épreuve de tout le Portugal pour la promotion du pays. Comme quoi, bon, c'était une époque où le surf avait explosé, mais ils avaient un championnat de Formule 1 et on avait été meilleur qu'eux pour les retombées médiatiques dans le pays. Donc, on a été beaucoup plus aidés après par le Portugal et moi au niveau européen, autre truc, bon, on est revenu sur Osgore avec un QS. Quicksilver, bien sûr, a profité qu'on parte, est parti de Biarritz parce que bon, Biarritz, les vagues, pour des compétitions de ce niveau-là, c'est vaut mieux venir à Osgore. Donc, Quicksilver est venu sur Osgore et nous, on est parti au Portugal et dans le Search CT qu'on a fait tourner à travers le monde.
Et si on revient un peu donc à cette époque, t'étais donc CEO de Rip Curl Monde.
Non, après, alors d'abord, j'étais CEO de Rip Curl Europe, président de l'Eurosima et président de l'ASP Europe. Donc là, je cumulais.
Et tu dormais un peu à ce moment-là ou?
Oui. Non. Alors l'avantage, il y a un truc qu'il faut voir. C'est que l'avantage, c'est de travailler dans sa passion. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de travailler. Et donc, t'as un truc, et après, effectivement, t'es toujours, c'est-à-dire, le week-end, tu vas faire des compètes, t'as des réunions avec Rossima, et puis tu gères ta boîte. Il suffit de bien s'encadrer, mais, je veux dire, j'ai jamais eu l'impression d'être surmené ou quoi que ce soit. Personne, de toute façon, c'était pas la peine de me plaindre. Personne, j'allais pas. Nos réunions avec Rip Curl, c'était ou sur un bateau au Manta Hawaii, ou dans les montagnes, parce qu'on fait aussi des trucs de ski, au bord de la mer. J'avais beaucoup de mal à tirer quelques larmes sur mon programme.
Et donc, quand t'étais CEO, à ce moment-là, quels étaient... Les challenges pour toi,
Le challenge, c'était bon, effectivement. Donc, t'as une voie de professionnelle, c'est d'avoir un résultat positif. C'est pas du mécénat. Donc, effectivement, c'est un résultat financier qui caractérise ton travail. Mais tant qu'on a été en expansion, ça a été relativement facile. Au niveau Eurosima, effectivement, c'est essayer de prendre des décisions communautaires qui vont aider l'ensemble de l'industrie. Et puis au niveau sportif, c'était toujours faire que tes surfeurs arrivent le plus haut possible dans l'échelle mondiale. Donc les objectifs étaient relativement clairs. Hein. C'était pas très compliqué. Je veux dire ça. Et puis alors, je veux dire, il y a eu des trucs. Je veux dire, au départ, il y a des femmes, elles s'habillaient pas en surf, en clothing de surf. Hein. Moi, quand on m'a parlé de commencer à faire des trucs pour les femmes, j'ai dit, oh là là, ça marchera jamais. Après, le chiffre d'affaires des femmes était plus important que les hommes. Donc, la vision s'arrêtait à certains niveaux. À Hawaii, je veux dire, Roxy vendait plus que Quicksilver. Donc, je veux dire, effectivement, moi, j'avais du mal parce que, je veux dire, à penser qu'une femme veuille porter une marque d'homme. Mais je m'étais totalement trompé. Donc, on a eu ce qu'on appelle des facteurs de croissance qui sont arrivés. Et jusqu'en 2008, quand il y a eu la crise, on a été en progression permanente.
Comment t'expliques justement qu'en 2008, quand il y a eu la crise, les marques de surf aient pâti un peu plus que d'autres marques de textile de cette crise?
Alors, quand il y a une crise, si tu veux, à une époque, les marques de surf, on vendait même dans les jeaners, chez les jeaners, des trucs comme ça. Chaque fois qu'il y a une crise, les gens se resserrent sur leur cœur de métier. Donc, les marques de surf ont été virées un peu de tout ce qui n'était pas surf shop, ça c'est un. C'est la première chose. Deuxièmement, les marques, il y a un truc bancaire, c'est-à-dire que les marques de surf avaient commencé, des grandes marques, hein, à faire des acquisitions, c'est-à-dire qu'elles avaient commencé à acheter d'autres marques. Et pour ça, elles avaient emprunté de l'argent puisqu'ils étaient capables. Quand t'empruntes, si tu veux, t'empruntes à 5-6% et que toi, t'es capable de produire du 10-12%, ben c'est simple, plus t'empruntes, mieux c'est, et puisque tu vas gagner 6% sur chaque chose que t'empruntes. Mais quand il y a une crise et que tout s'arrête et que tu as toujours tes intérêts à 6%, mais que tu produis plus rien, et ben là, c'est là où, les, où ça se retourne. Et l'avantage qu'on avait, si tu veux, c'est que Quiksilver et Billabong avaient beaucoup plus joué à ce jeu que nous, étaient beaucoup plus endettés et ça a créé leur perte. Alors que nous, Rip Curl, ça nous appartenait toujours. La société était toujours entre nos mains, c'est-à-dire des créateurs.
Et tandis que nous, les deux autres étaient en bourse déjà.
Oui, les deux autres étaient en bourse. Donc, les deux autres perdent de l'argent depuis cette époque-là, hein, grosso modo. Et donc, ça fait que les deux autres ont changé de propriétaire. Les gens qui étaient propriétaires de ces marques-là à cette époque ne le sont plus. Hein. C'est un fonds américain qui est propriétaire des deux marques. Alors que nous, chez Rip Curl, c'était nous, les banquiers sont venus, ils ont essayé de nous tuer. Hein. Du fait que c'était à nous, on a pu prendre des décisions très rapides. Je veux dire, on a dit, bon, on arrête de se payer, on arrête de faire ci, on arrête de faire ça. Et on a fait un planning aux banques, on dit, on va vous rembourser ce qu'on vous doit, l'argent, parce qu'ils nous avaient prêté l'argent, c'est eux qui avaient voulu nous le prêter, mais ils nous demandaient de le rembourser tout de suite. On dit, on va vous le rembourser, et on est passé à travers la crise, on a eu cette chance. Et donc, on est resté un propriétaire de notre marque, parce qu'à un moment, ils voulaient qu'on la vende. Et deux, on a pu les premiers sortir de la crise. Et même, alors, ce qui était assez curieux, c'est que on a dû licencier des gens. Hein. On a licencié, je crois, 50 personnes en Europe, 50 aux États-Unis, 50 en Australie. Mais comme on l'a fait les premiers, au début, on était des méchants. Mais après, comme les autres l'ont fait, ben, on est devenus les gentils parce que les autres étaient des méchants et licenciaient des gens, alors que Rip Curl, eux, ben, la mémoire étant courte, ils ne s'étaient pas rappelés qu'on l'avait fait.
Vous étiez de nouveau en phase d'embauche quand les autres licenciaient.
Voilà, c'est ça. Et donc, si tu veux, ça, on est devenus les méchants. Et à savoir que la vision de Rip Curl, tu sais, on a une vision, on a des valeurs et des choses comme ça, c'est d'être the ultimate surfing company. Et je pense qu'à ce moment-là, on a achevé notre goal, puisque dans l'esprit des gens, on était vraiment la dernière marque de surf, encore made by surfer for surfer, c'est-à-dire fait que c'était des surfeurs qui dirigeaient la société pour des surfeurs. Alors que les autres, bon, dans des fonds américains, hein, ce sont des vieux, les retraites de vieux, et si tu veux, ils ont une vision court terme, c'est-à-dire le profit pour la prochaine séance, et ils n'avaient plus de vision long terme.
Et puis arrête-moi si je me trompe, mais de mémoire, à ce moment-là, Rip Curl, ça a été vraiment la marque qui s'est recentrée sur le côté technique, performance des produits, plus que sur le côté mode.
Alors voilà, alors ça, de toute façon, on avait cet avantage-là, c'est qu'on était déjà technique. Donc ça, ça a été facile. C'est-à-dire que c'est nous qui faisions les combinaisons, c'est nous qui faisions les montres des marées, on faisait tout ce qui était technique, c'était nous qui le faisions. Donc effectivement, la légitimité de la marque était beaucoup plus facile. Et à ce moment-là aussi, alors donc on a décidé un truc, on a dit on va pas faire de push sell. Push sell, c'est-à-dire on va pas donner des prix pour vendre. Les gens qui viendront acheter du Rip Curl, c'est parce qu'ils voudront du Rip Curl. Et je peux dire que la plus grosse fierté en tant que business à l'époque, c'est qu'on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire 50% du chiffre d'affaires et on s'est pas planté. Et je veux dire, pour une boîte, perdre 50% de son chiffre d'affaires quand t'as les frais fixes et tout ça, c'est très, très dur d'arriver. Au point de vue management, c'est beaucoup plus dur que de gérer une boîte en expansion. Ben, nous, on est arrivé à faire ça, à perdre en disant, alors que les autres, ils bradaient, et tu pouvais avoir deux shorts pour le prix d'un ou trois shorts pour le prix d'un. Je veux dire, nous, on a dit non, 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 le prix du short, ça reste le même. Vous voulez acheter du Rip Curl, vous achetez du Rip Curl. Si vous voulez un truc moins cher, ben, si vous voulez un truc pour le prix, vous allez sur les marques concurrentes. Alors, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, mais on a gardé nos marges et on est arrivé à remonter. Et c'est ce qui a fait la différence, si tu veux, à la fin. C'est que nous, on a pratiquement jamais perdu d'argent. Et ça, au point de vue management, c'était la période la plus critique et la plus intéressante.
Et puis aussi, pareil, arrête-moi si je me trompe, mais si ça sortait la marque de la dimension de mode et donc passagère, et ça l'inscrivait dans la dimension ADN du surf. Et...
Tout à fait, mais on y était déjà dans l'ADN du surf, mais ça nous maintenait dans le côté ADN.
Ça renforçait
l'ultimate surfing company. Ça, non, non, c'était, on n'a jamais eu de problème avec, on n'a jamais eu de légitimité à prouver à ce niveau-là. Donc ça, c'était relativement tranquille, si tu veux. Après, c'était un résultat économique. C'est-à-dire que même si t'es légitime, je veux dire, si t'as des dépenses supérieures à tes rentrées d'argent, eh ben, t'as des problèmes.
Donc toi, quel regard tu portes sur cette période-là, justement, avec du recul? Est-ce que c'était vraiment une période intense et dure à vivre ou
Je pense que ça fait partie du truc. Moi, c'était rigolo parce qu'on était obligé d'aller voir les banquiers. Enfin, je me rappelle des anecdotes. On était obligé d'aller voir les banquiers. Donc, tous les mois, je veux dire, c'était à Melbourne, si tu veux. Et que la première fois, donc, on est trois. Tu vois, il y a Brian Singer, bon, qui est le plus corporate de nous. Il y a Chloe, qui est un peu un clown, et moi... qui est un peu de, nous on est plus branding, alors Brian est plus dans les chiffres. On arrive et puis on arrive en short, on arrive en short, en tong et tout ça. Il nous regarde et il me dit, mais vous comptez aller voir les banques comme ça? Il dit, oui, pourquoi? Il dit, non, on est allé en face acheter des chemises, des pantalons et tout ça. Et on s'est déguisé un peu pour aller voir les banquiers. Et les banquiers, quand ils te voyaient, ils avaient moins peur, si tu veux. Tu vois, ils ont peur que tu disparaisses, quoi, d'un moment à l'autre. Donc, mais ça a été très rigolo parce qu'on s'est changé dans un parking. Enfin, c'était très juste à côté de la banque et puis on se rechangeait derrière.
Si tôt le rendez-vous fini, ouais, on met le board-shirt.
Voilà. Non, c'est des moments assez intenses. Mais si tu veux, ça fait partie de la vie économique des trucs. Et je dirais que même, nous, les gérants, enfin, les PDG, on est là pour régler les problèmes. Ton rôle devient véritablement efficace quand tu as un problème en face de toi. Je veux dire, c'est là où il faut trouver la solution, à court terme, à long terme. Ça, ce sont des décisions. Et quelquefois, ce que je dis, c'est là où on a gagné, c'est que nous, on a pris des décisions à long terme. On a dit, effectivement, on va perdre du chiffre d'affaires, on va perdre des trucs, on va devoir licencier des gens. C'est pas grave, mais à long terme, on est sûr de gagner, quoi. Parce que, je veux dire, on est sûr des valeurs de la marque, on est sûr de la qualité de nos produits. Non, c'est intéressant.
Et à quel moment, toi, tu as décidé de te retirer de tes positions de dirigeant de la...
Et quand ils m'ont viré.
Je veux dire. Décision forcée.
Non, c'est une décision forcée. C'est simple. Dans une boîte, tu as des trucs, tu as des directeurs. Les directeurs, ce sont des non-exécutifs. Et tu as un PDG. C'est le chef du truc. Et donc, mes deux autres partenaires et moi, on est directeurs. Puis il y avait d'autres gens, tu fais venir un banquier, un truc comme ça, pour être directeur de la boîte. Et t'as le PDG. Donc, les directeurs donnent au PDG sa direction et contrôlent qu'il y va. Mais l'inconvénient qu'ils avaient avec moi, c'est comme moi, j'étais aussi directeur et je prêtais aussi des propriétaires de la marque, ils pouvaient pas me virer. Même si je faisais pas ce qu'ils voulaient, ils pouvaient pas me virer. Donc, ils me disaient, on va à droite. Et puis, moi, j'allais peut-être un peu à gauche. Et disaient, François, tu déconnes. Ils disaient, mais ils pouvaient pas me virer. Alors, à un moment, ils en ont eu marre. Ils ont dit, bon, tu arrêtes d'être PDG et tu viens uniquement directeur avec nous. Donc, ils m'ont viré de l'exécutif.
D'accord.
Voilà, et puis c'est tout. Et puis, comme ils avaient la majorité, j'ai pas eu le choix. Maintenant, être uniquement directeur, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu diriges la boîte, mais tu n'as aucun rôle actif.
Jamais toi le méchant.
Tu donnes la direction et tu contrôles. T'as jamais des directeurs qui se mettent en grève, hein. Ça, je vous rassure. C'est vraiment le bol. Et moi, j'étais payé pour la représentation de la marque. Donc, tu vois, je veux dire, pour être un surfeur. Donc, ça m'allait bien, hein.
Sponsoring.
Voilà. T'es sponsorisé. En plus, les meetings sont à travers le monde. Donc, tu voyages. Je l'ai dit, dans des endroits agréables. Donc, voilà, c'est pas. Non, c'était très bien.
Et donc, tu as basculé ensuite vers d'autres aventures entrepreneuriales. Enfin, déjà été un peu le cas, j'imagine. Mais...
Ouais, non, beaucoup plus tard, puisque en tant que directeur, on a vendu la boîte en 2019. Donc, si tu veux, parce que donc, mes deux partenaires étant plus âgés, si tu veux, et on a. Alors, notre vie est très agréable, mais on a quand même une vie familiale un peu compliquée. Donc, on a eu plusieurs femmes, des enfants de différents âges. Et si tu veux, tu n'as pas une harmonie dans ta succession. Donc, les deux qui sont plus âgés que moi, à un moment, ils ont préféré dire, plutôt que de laisser, les enfants n'avaient pas les mêmes besoins, plutôt que de laisser des emmerdes aux enfants, on va vendre la boîte et leur laisser. Donc, on a vendu la boîte en 2019. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, moi, j'avais déjà mis des petites graines dans d'autres activités et j'ai arrêté toutes les activités liées au surf parce que même si on m'a proposé d'autres aventures, quand tu as déjà fait un chemin, je me voyais très, très mal recommencer. Dire, les gens, ils savent que j'ai du Rip Curl qui me coule dans les sangs. Le lendemain, arrivé en parlant d'une autre marque. Je trouvais ça totalement, si tu veux...
Tu peux balancer des noms d'autres marques qui t'ont approché?
Non. Mais après, les gens ont des parcours différents. Eux, c'était peut-être la réussite économique. Mais je veux dire, comment il s'appelle, Derek, il est passé de Billabong à Vissla. Et je veux dire, moi, je suis admiratif devant le courage de refaire ce parcours, si tu veux, tu vois. Mais non, moi, j'ai préféré complètement arrêter toute activité avec le surf. Alors qu'on est toujours lié à Rip Curl, parce qu'en plus, si tu veux, quand la marque, c'est une marque qui s'appelle Katmandu, qui fait de l'eau d'or, c'est une marque new-zélandaise qui nous a racheté, on a échangé nos parts en partie contre des parts de Katmandu. Donc, on est toujours, si tu veux, actionnaire propriétaire de Rip Curl, mais dans une proportion beaucoup plus minime, mais avec aucun rôle actif. On n'est même pas au board, on est nulle part, tu vois. Mais je veux dire, mais donc, moi, je me sens toujours lié à Rip Curl, mais pas plus que ça. Donc, j'avais commencé à côté d'autres activités que je poursuis aujourd'hui.
Et c'est dont tu vas nous parler.
Alors, oui, alors c'est bon, on s'éloigne un peu du sujet. La chance, si tu veux, c'est effectivement, comme je voyage beaucoup, je sais que les tendances, comme j'avais vu les tendances par le surf dans le monde anglo-saxon, touchent notre monde, le monde latin, après. Donc, quelquefois, quand je vois des tendances que je vois vraiment importantes, si vous voulez, quand je suis en Australie, aux États-Unis ou tout ça, je sais qu'un jour ou l'autre, ils vont arriver là. Et je l'ai vu avec deux choses. Donc, je l'ai vu avec le yoga. Donc, voilà. Et puis, nous, on pratiquait le yoga depuis 20, 30 ans sous forme d'étirement, hein, pas du tout la philosophie aujourd'hui qui l'accompagne. On n'avait aucune notion de ça. Mais quand on sortait, mettons, comme on allait à Hawaï, on sortait d'une séance de surf, on avait des profs qui nous faisaient des séances d'étirement. C'était du yoga. Donc, le yoga est quelque chose qui m'a paru très complémentaire au surf. Donc, j'ai fait des centres de yoga. Et la deuxième chose, un de mes coureurs, Vincent Lartizien, qui était un de mes coureurs à l'époque windsurf et surf, est venu me voir en me parlant d'une plante magnifique, le chanvre, le cannabis, et en me disant qu'effectivement, cette plante avait d'énormes qualités. Et de toute façon, on allait la redécouvrir. Et quand je suis allé en Australie, j'ai vu des boutiques entièrement consacrées au chanvre. J'ai vu dans les supermarchés des rayons entiers sur le chanvre. Donc, je savais que ça allait exploser. Et donc, on a créé une marque de chanvre ici, les chanvres de l'Atlantique, Nuntisuya, qui est bio et qui est française. Et on est les leaders aujourd'hui du marché. Alors, on fait surtout l'alimentaire. Nous, on fait graines décortiquées, protéines. Mais aussi, on est les leaders du marché du CBD. Puisque le CBD a été autorisé en France sous certaines formules, mais nous, bien sûr, on est légal à 100% et on est les premiers fournisseurs de CBD bio en France.
Le business doit être florissant.
Alors là, on retrouve l'explosion que j'ai connue dans le surf, on le retrouve effectivement au niveau de la plante. C'est assez passionnant de revivre la même aventure dans un domaine différent. Mais la vision est la même, hein, que j'ai l'impression moi que quand j'ai fait du surf et que je voyais des gamins sortir de l'eau avec le sourire, tu dis, ben, j'ai réalisé ce que je voulais. C'est-à-dire, il va pas tomber dans la drogue ou dans les tablettes électroniques. Il passe une heure ou deux heures à se battre avec la nature et quand il sort, il est bien, t'es bien, t'as une sensation de bien-être, tu t'es vidé la tête et tout ça. Avec le yoga, j'ai exactement la même chose. C'est pas le même édit de pointe, c'est plutôt des femmes, si tu veux, qui ont eu des enfants, qui se retrouvent à la maison, qui ont plus trop confiance en elles, et puis qui reviennent et qui reprennent conscience de leur corps, qui commencent à de nouveau s'aimer et tout ça, et c'est assez super. Et avec le chanvre, ben, t'as l'impression d'apporter du bien-être à tout le monde. Donc, à chaque fois, ce sont des trucs positifs. Et tu dis que les gens ils disent oh, super, vous m'avez fait connaître cette plante. Et là, j'ai un gars qui était là, qui venait de Suisse. Le gars, il a des blessures, si tu veux, à la colonne vertébrale. Il dort pas depuis des années. On lui a filé du CBD, 3 gouttes sous la langue, et il a passé ses 2 premières nuits où il a dit putain, mais j'ai plus dormir, j'ai plus mal. Je veux dire, je me suis pas réveillé cette nuit et tout ça. Et ben, quand tu as des choses comme ça. Je veux dire, financièrement, c'est des business, il faut aussi que ce soit positif. Mais ce genre de moment partagé n'a pas de valeur, quoi. Tu dis, bah, tiens, j'ai apporté quelque chose à quelqu'un, alors que ce soit au niveau du surf, du yoga ou du chanvre, bah, tu dis, bah, bravo, quoi. J'ai apporté ma petite pierre au fait que des gens autour de moi se sentent mieux. On est dans la même ligne que le surf, même si on s'est un peu éloigné de la.
C'est top en tout cas, mais pour revenir au surf, il y a eu pas mal d'évolutions depuis les débuts. Les JO viennent de se terminer aujourd'hui même. On voit un engouement, on voit de plus en plus de personnes à l'eau.
Ah oui, c'est mon problème ça.
Quel regard tu portes sur tout ça, sur cette évolution?
Je veux dire qu'on a trop bien réussi. Alors en tant que surfeur, on a trop bien réussi notre boulot puisque je veux dire en plus. Alors j'ai remarqué que de plus en plus, j'étais de plus en plus jeune autour de moi. Ça m'emmerde aussi un peu parce qu'il rame plus vite et que ça, le sport, le surf reste un sport quand même un homme une vague. Hein, c'est-à-dire c'est très bien. Donc on avait créé quelque chose nous qui s'appelle The Search. C'est-à-dire la quête, et que ben, j'ai continué ma quête et j'ai trouvé un endroit où je surfe pratiquement seul et je suis très bien. Mais si tu veux, quand je reviens à Osgore ou quand je vais, que ce soit en Australie, à Bess ou même à Uluwatu, là où j'habitais quand j'étais en Indonésie. Eh ben, je veux dire, le surf, la pratique du surf telle que moi je le concevais, c'est-à-dire, est devenue un peu difficile du fait du nombre de personnes à l'eau. Alors, je recherche plus la même qualité de vague. Ce que je recherche plus, c'est la tranquillité dans l'eau.
Aujourd'hui, il y a une solution qui permet de désengorger les line-ups, c'est les piscines à vagues. On en entend parler, il y a plein de projets qui fleurissent partout. Toi, tu as une vision par rapport à ça, à la fois pour le business et à titre perso.
Je pense, tu vas pas contre le courant, la piscine à vagues, ça va s'installer. Donc, c'est pas, on ne demande pas si tu penses ou pas. Dans la piscine à vagues, c'est la vague qui vient vers toi, c'est pas toi qui vas vers la vague. Donc, ça, c'est un peu différent. Mais la piscine à vagues, je trouve ça extraordinaire pour les écoles de surf. C'est-à-dire que la grosse vague, si tu veux, c'est l'image, quoi, c'est le marketing. Mais ce qui est bien, c'est les quatre petites vagues que tu peux mettre au bord, où tu peux mettre des gens, leur apprendre à surfer. Tu vas dire, on est sûr d'avoir une vague toutes les 30 secondes ou un truc comme ça. Donc ça, je trouve ça très bien. Et même pour l'entraînement et la pratique, c'est aussi d'avoir une vague régulière qui fait toujours la même chose. Ça va permettre au côté sportif, hein, ce qui est pas, c'est pas le lifestyle, c'est le côté sportif, de progresser aussi, aux gens de progresser aussi. Donc, les piscines à vagues sont là, seront là, et bon. Alors, je sais qu'il y a pas beaucoup, il y a des débats, je veux dire, c'est contre la nature, tout ça. Bon, ouais, si tu veux, mais bon, c'est pas la peine de, je veux dire, il y aura de plus en plus de piscines à vagues. C'est sûr. C'est très, très. Alors, moi, personnellement, bon, si j'en avais une dans le jardin, je serais content, mais bon. Après, je veux dire, chacun, ça permet, c'est une option supplémentaire. Si les gens, ils n'aiment pas, ils n'y vont pas. C'est pas, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de truc. Moi, je ne sais pas. C'est pas. Alors, j'ai participé à la création d'une des premières piscines à vagues, un projet qui n'a toujours pas vu le jour, mais j'ai participé parce que, éthiquement parlant, chaque fois que quelqu'un vient me proposer quelque chose dans le monde de la glisse, j'ai tellement reçu du monde de la glisse que je me dois de donner aussi des choses. Donc, effectivement, j'ai participé au développement d'une des piscines.
Sur laquelle ?
Okinawa, je crois qu'elle s'appelle. Hein. Une de Bordeaux, quoi. C'est...
OK.
Voilà, mais c'est très... Non, c'est pas. C'est, je veux dire, on sait comment ça va. Je veux dire, c'est comme dire les remontées mécaniques à la montagne. Comment vous trouvez ça ? Je comprends pas. Il dit, eh ben c'est vrai, tu peux dire la montagne, ça se pratique. Je mets des pots de phoque, je monte en haut de la montagne. Et ce truc, dans les remontées mécaniques, c'est exactement comme la piscine à vagues pour les surfeurs. Je sais pas, c'est très.
Non, ça se tient.
Ouais, c'est pas. C'est un développement, c'est supplémentaire. Et puis ça, je te dis, ça permettra à d'autres gens encore de découvrir ce sport merveilleux avec ses valeurs, de se donner un sens à leur vie et de. Moi, si tu vois que l'objectif final, c'est ça, eh ben, tu dis oui, ça va dans le bon sens.
Et tu penses que ça aura un réel impact sur le business surf pour les manufactureurs et autres ?
Parce qu'on s'en fout de ça, je veux dire.
OK.
Non, mais c'est pas vrai. Un business surf, moi, ce que je disais, hein, ma vision, c'est que tu as un business qui fait 100 millions. En tant que manager, tu dois faire du profit avec 100 millions. Tu as un business qui fait 500 millions. En tant que manager, tu dois faire du profit avec 500 millions. Car moi, je ne savais pas à 100 millions près ce que faisait ma boîte. Je m'en foutais totalement. Moi, ce qui m'intéressait, j'étais...
Tu veux dire quoi, pardon, quand tu étais même...
Ah ouais, PDG, je n'avais pas.
Ah ouais.
Ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est le branding, c'est l'image. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était la perception des gens sur la plage de ma marque. Et je savais que tant que le branding était bon, que ça m'assurait mes chiffres d'affaires de la prochaine fois. Je trouve ça un peu triste de compter tes sous. Hein, je veux dire.
Donc, tu avais une approche plus marketing du management que...
Je faisais du branding.
Ouais.
C'est-à-dire le branding, c'est-à-dire moi, ce qui m'a... Alors, on s'est engueulé avec ça. Quand j'étais PDG de Rip Curl, Monde, Europe peut-être, Monde, il m'avait arrêté. Je ne voulais pas une pub où il y avait du produit. Je trouvais ça vulgaire. Je disais, moi, on ne fait que d'images. C'était la campagne The Search où tu voyais des vagues.
Ouais, alors, vierge sans surfeur.
Oui, vierge sans surfeur ou avec un surfeur en train de surfer. Mais il n'y avait pas un produit, il n'y avait pas une pub de produit. Ça, je trouvais ça très, très restrictif, très, très rébarbatif. Alors, tu dis, je vends du rêve. Et pour les gens qui veulent s'acheter mon rêve, eh ben, ils vont acheter un produit pour s'identifier à mon rêve. Et je ne vais pas vendre un t-shirt, je ne suis pas un vendeur de t-shirt. Bah, je vends une image, je vends un truc, je vends une vision, je ne vais pas... Je trouve ça très triste d'être un vendeur de t-shirts. Je sais pas, moi, je sais pas. C'était dans ma façon de voir, c'était ça.
Non, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que, voilà, même pour un CEO, d'être aussi loin des chiffres, de ce genre de considération. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut plus être le cas.
Bah, si, c'était bien entouré. Parce que moi, j'avais des gens qui étaient.
Qui
savaient compter, qui étaient autour de moi. Bah, mon rôle n'était pas de savoir. Moi, je te dis, je regardais les résultats dans les boards et encore. sur les trois, il y en a un qui était intéressé par les chiffres, les deux autres, Claude et moi, on s'en foutait. Enfin, s'en foutait pas, on était contents parce qu'on gagnait de l'argent. Mais je veux dire, alors, on a, et à chaque fois, Brian disait, je suis sûr que vous n'avez pas encore lu le rapport. J'ai jamais lu le rapport. Je dis pourquoi tu veux qu'on le lise, toi tu vas le lire. Alors je veux dire, il gueulait, mais c'est vrai, j'avais pas besoin de ça. Moi, ce qui m'intéressait, je te dis, c'était l'image de la marque, la perception. Je voyais des surfeurs sur la plage, ils étaient en rip curl, c'est tout ça. On discutait des produits, c'était ça le sourcing. Et en plus, les mecs, ça leur plaisait de se voir que le PDG de Rip Curl, il surfait avec eux. Tu vois, il était surfeur, il était machin, il était pas forcément, dans une tour avec un cravate et un truc, en train de regarder des chiffres, en train d'aligner des chiffres. Non, ça m'aurait vraiment emmerdé de faire ça.
Et on parlait tout à l'heure du coup du marché des piscines à vagues. Toi, quels sont les principaux enjeux aujourd'hui du marché de la glisse pour les années à venir?
Je pense que maintenant, il y a pas d'enjeu. La glisse s'est installée. À l'époque, si tu veux, on avait à créer un marché et on était tellement attractif que même un marché de la montagne s'est mis. C'est-à-dire que les snowboarders ont dit qu'ils faisaient partie de la glisse. Ils ont pas dit au départ qu'ils faisaient partie du ski. Il y a eu même une sorte de, défiance par rapport au marché de la montagne. Et je dirais donc non. Moi, je dis que la glisse, on a plus rien à prouver. On fait partie des trucs. Alors, le sport monte, ça monte un peu. Je veux dire, le confinement a aidé Rip Curl parce qu'en Australie, ils n'ont pas eu le droit de voyager, mais ils avaient le droit d'aller sur la plage. Donc, si tu veux, chaque fois qu'il y a des crises, généralement, le surf progresse. Non, moi, j'ai pas de truc. Alors, je veux rien dire contre le ski parce que, alors, c'est une aparté, mais c'est mon arrière-grand-père qui a été l'importateur du ski en France, hein. Excellent. Donc, voilà, si vous voulez. Donc, le docteur Payot, je veux dire, et c'est le premier qui a amené le ski dans les Alpes. Voilà. Donc, il est considéré comme étant à l'origine de cette pratique. Voilà. Donc, au niveau de la glisse, si vous voulez, dans la famille, on se rejoint à ce niveau-là.
Voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice au niveau du rail.
Alexandre Payot, vous allez voir au musée de Chamonix, ils en parlent.
Excellent.
Donc, on le voit bien dans tout ce que tu nous racontes. Tu étais un entrepreneur de passion, dirigé par la passion. Justement, la passion du surf, tu as réussi à la garder toutes ces années?
Non, elle a énormément évolué. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu jeune con, j'étais jeune passionné. J'arrivais pas à m'éloigner des plages ou des choses comme ça. Je ne pouvais pas faire autre chose qu'être au bord de la mer. Alors qu'aujourd'hui, j'adore surfer, mais je suis très capable de m'éloigner un peu des côtes. Et je veux dire, le temps de pratique n'est pas le même. C'est-à-dire qu'avant, je passais ma journée à surfer, mais je passais une bonne partie de ma journée dans l'eau. Alors que là, aujourd'hui, au bout de 2 heures, je suis fatigué. Et j'aime bien faire autre chose. Voilà, c'est tout. Donc, si tu veux, ça participe toujours à mon équilibre, mais je suis moins malade si je ne surfe pas ou des choses comme ça. Tu vois, je suis plus balancé dans ma façon de vivre.
Est-ce que la passion du surf, ça a toujours été le moteur, ou au moment où tu avais des responsabilités et sans doute un peu de pression aussi, ça a pu jouer un petit peu sur ça, non?
Non, je sais pas. Enfin, la passion du surf, tu l'avais, c'était naturel. C'est comme dire, tu respires. Est-ce que c'est le truc? Nous, on était des surfeurs, hein. Je veux dire, j'étais avec Fred Bass, je veux dire, qui avait été champion de France. C'était notre ADN. Donc, il y a jamais eu de remise en question de ça. J'ai jamais eu l'impression d'aller travailler. J'ai l'impression de participer à ça. C'est cette chance à ma passion. Quand les gens parlent d'heures de travail, tout ça, c'est des trucs qu'on ne comprenait pas. Parce que si t'as un truc à faire, tu le fais. T'es pas en face d'un truc ou répondre à un téléphone. Il faut le faire. C'est tout. Ça s'arrête quand la mission est terminée. Non, ça, on a eu cette énorme chance, si tu veux. Les gens, ils bossent pour quelquefois, tu bosses, je veux dire, dans une banque pour aller faire du golf parce que le golf, c'est là où tu te sens bien et te réalises. Nous, on allait bosser là où on se réalisait. Alors que tu parles d'un produit, on te fait voir un produit, une nouvelle combinaison isothermique. Toi, tu l'adaptes tout de suite à toi en disant, est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou pas? Tu as toujours une réponse directe. Tu n'as pas besoin forcément d'une étude de marché pour dire si le produit est bon ou pas. Et tout, alors que tu vas dans un atelier de planches, tu vas avoir des planches. Enfin, tout, qu'on sorte des nouvelles montres qui nous disent le nombre de vagues que tu vas prendre et tout ça. Alors bon, au départ tu le mets, hein. Moi à mon âge tu t'en sers pas souvent, mais tu sais que les gamins ça va leur plaire et tout. Non, c'est très tout ce que tu fais est intéressant parce que c'est ta passion si tu veux et que tu peux vite la traduire, quoi, tu vois.
Et donc elle est toujours présente aujourd'hui différemment, mais toujours là.
Oui, j'ai toujours. Si je passe près d'une plage, je regarde toujours les surfeurs, je regarde ce qu'ils font, je regarde comment ils surfent, je regarde comment ils sont, s'ils sont habillés ou pas. Ça paraît idiot, mais là, un truc, on parle d'évolution. Hein. Un truc au départ, même on s'est fait engueuler une fois par le Brian Singer parce qu'on avait des planches de mousse dans nos magasins. OK? Et il trouvait que c'était vraiment pas. Alors qu'on était en contradiction. Moi, je disais que le surfeur, du gars qui le premier jour sa planche jusqu'au champion du monde, ce sont des surfeurs. Il y a pas. Et je vois pas pourquoi moi je fais des planches pour le champion du monde et pas des planches pour le gars qui arrive. Bah aujourd'hui, j'ai aussi des planches en mousse. Et quand je vais surfer à Osgore, si tu veux qu'il y a des petites vagues et qu'il y a 200 personnes dans l'eau, et ben je suis beaucoup plus à l'aise avec une planche en mousse parce que je sais que moi je vais partir de toute façon. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de crapahuter devant que je vais arrêter. Je vais partir et si je le touche, je vais pas lui faire mal. Et je veux dire, à partir de ce moment-là, j'ai un surf beaucoup plus relax que si j'ai ma planche où il faut éviter l'école qui est à droite, le gars qui est à gauche et ainsi de suite. Toi. Donc, je veux dire, dans la pratique du surf, ça nettement. Je suis dans l'eau, ben je suis bien. Je vais prendre 2-3 vagues, je suis bien. Ben il y a du monde, ben je m'adapte, voilà. Et que quand je vais au Mentawai, ben c'est sûr, j'ai pas la même planche, j'ai pas le même environnement et j'ai pas le même plaisir ou la même fatigue à la fin. Mais par contre, dans les deux cas, je me suis adapté à mon environnement et j'ai profité au maximum de ce que je pouvais faire. Et j'en tire, on va dire un plaisir qui est à peu près effectivement. Bien sûr, quand tu as pris un beau tube au Mentawai, mais quand je suis allé tout droit sur ma planche en mousse à Osgore, je veux dire, c'est pas forcément exactement le même. Mais à la fin, je suis content quand tu sors de l'eau et que tu as fait un truc. Et là, pendant le confinement, j'ai même fait quelque chose de différent. Je me suis mis au kitesurf. Parce que là où j'étais, il y avait, comme j'ai pas été confiné, moi, il y avait aussi du vent l'après-midi. Je me suis mis au kitesurf. Et ben, j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre quelque chose de neuf, alors que je suis pas doué, hein, mais c'est encore un élément supplémentaire à la palette de ton harmonie avec ton environnement et avec la mer, c'est tout. Et ça, c'était assez super.
Tu parlais des Mentawai. Tu passes un peu de temps. T'as même investi aussi dans des,
oui,
dans
oui,
des business.
Oui, j'ai un bateau là-bas. Le plus rapide, en plus.
Le plus rapide. OK. Et tu t'en sers comme business ou c'est plus pour plaisir?
Un, c'est un business parce qu'il faut bien payer l'équipage et le bateau. Mais deux, effectivement, je fais normalement, hors période Covid, je fais 2 trips par an.
Ça aide à garder la passion, ça.
Oui, et la forme aussi. Et la forme aussi. La passion et la forme. Je veux dire, tu vas avec tes potes. Je veux dire, tu retrouves un peu ce que tu ressentais au départ, qu'on était tous dans le même combi pour aller surfer. Bon, là, t'es sur un bateau. Alors, c'est pareil, on cherche plus les vagues. On cherche pas forcément la meilleure vague. On cherche la vague où il y aura moins de monde, où on pourra surfer tranquillement et être très agréable. Non, c'est très. Enfin, tout surfeur aime ce trip-là. Hein, c'est facile.
C'est clair. Ouais.
À savoir que c'est Rick Curl. C'est-à-dire qui est les premiers quand dans The Search qui ont découvert cette partie du monde. Donc moi je suis allé au Mentawai quand il y avait personne au départ, hein, je veux dire
une vidéo avec Tom Curran.
On était là, je veux dire on marchait sur des plages, on a donné de nom à pas mal de vagues et ça
fait partie de nos racines. D'une autre émission d'ailleurs, clairement.
Hein,
ça pourrait faire l'objet d'une émission entière d'ailleurs.
Ça c'est différent, ouais. Mais ça faisait partie de The Search, hein, rappelez-vous. Un jour on a mis un concept. On avait une marque de surf et on a parlé d'un concept, mais qu'un concept qui liait tous les surfeurs, qui était The Surf, c'était la quête de la nouvelle vague, de le truc ou d'une nouvelle pour chacun, pour le skieur d'une nouvelle piste, pour le gars qui fait du wind un nouvel endroit, pas un truc. C'était quelque chose qu'on avait tous en nous et ce qu'on a créé un logo. D'ailleurs, il est en haut du fronton là.
On a vu tout à
voilà,
l'heure.
Voilà, il est en haut du fronton là, qui était The Surf, qui pour moi était une des choses les plus importantes. Et alors, ce qui me plaisait le plus, c'est voir des surfeurs d'autres marques qui mettaient le logo The Search aussi. C'est-à-dire, c'était quelque chose où tous les surfeurs, quelle que soit la marque qui les sponsorisait ou quel que soit le truc, pouvaient s'identifier. Je veux dire, t'es pas The Search, on disait que ça peut être au fond de ton jardin, c'est-à-dire que ça peut être la vague d'à côté. C'est-à-dire, c'est une matinée, t'y vas, il y a un bon vent, ça a tourné, t'es tout seul ou t'es avec deux copains et t'as une bonne session. Et ben, t'as fait ton truc, quoi, tu vois. Mais ça a aussi une incitation au voyage. C'est-à-dire, il faut aller voir plus loin, commencer. Et pour moi, le voyage, fait partie de la formation, si tu veux. Quand je vois des gamins qui quittent l'école ou l'université, ils me disent « qu'est-ce que je fais ? Je peux rentrer dans la vie du travail ?» Je dis « non, tire-toi. Tu n'auras jamais l'occasion de te tirer plus tard. C'est le moment où tu viens de finir tes études, où tu viens faire truc, va découvrir le monde. Apprends à être barman aux États-Unis, cuisinier en Australie, apprends la vie. Tu seras beaucoup plus mature quand tu vas revenir. Puis surtout, après, il y a une femme qui va te tomber dessus, tu vas avoir des gamins et trucs, tu ne pourras plus partir avant ta retraite et en bus et avec maman à côté. Donc, je veux dire, tire-toi maintenant. Donc, quand j'avais des stagiaires et qui venaient me voir en fin de stage et qui me disaient « Ah, mais j'ai peut-être rentré chez L'Oréal et tout ça », j'ai dit « Mais t'es fou. Qu'est-ce que t'en as à foutre ?» Je veux dire. Il dit « Mais le monde du travail, je dis « Mais attends, le monde du travail, il y a 10% de chômage. Tu as 90% de gens qui travaillent. Tu crois que où est le risque ?» Le risque, c'est plus de tomber dans le monde du travail que dans le monde du chômage. On est bien d'accord, tire-toi, tu seras plus fort. Et un de mes coureurs que j'ai beaucoup... il y a Vincent Lartésien, donc celui avec qui on fait le champ, il n'avait jamais travaillé de sa vie, je crois, avant 50 ans. Hein. Donc, il commence maintenant, il travaille beaucoup. Hein. Mais il y avait un autre gars qui s'appelait Boris Le Texier, qui était avec moi, qui était champion de France de surf. Après, il a fait toute sa carrière sportive. Il a fait donc ses travaux. Et après, il a fait architecture. Il est architecte aujourd'hui. Il a eu toutes ses études. Il les a eues facilement parce qu'il était plus mature que les autres. Et c'est lui aujourd'hui qui nous construit notre usine de chanvre. Voilà. Donc d'accord. On a repris les mêmes et hop, on continue l'histoire dans un autre domaine. C'est l'architecte qui nous fait le truc. Non, voilà. C'était moi, je veux dire, c'est au point de vue formation, je pense que le voyage c'est très intéressant et je veux dire est très important. Et c'est pour ça que le surf qui poussait au voyage. Ce search, pour moi, est doublement cette importance. Un, bien sûr, de trouver des nouveaux endroits, mais deux, d'être l'étranger dans un pays. Si tu n'as jamais été l'étranger, tu ne comprends pas l'étranger qui est ici. Hein. L'étranger qui est ici, c'est un envahisseur. Et si toi, tu as été l'étranger, tu sais que non, qu'il y a dans l'échange des cultures, il y a des tas de choses à gagner. Donc ça fait partie de la formation. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait toute l'Amérique du Sud seul. Je suis parti de Bangkok, je suis allé jusqu'à Bali en bus, en train, tout ça. Et tu rencontrais des tas de gens, tu vivais des tas d'aventures, tu vois. Et ça, je pense que c'était important.
Là, on arrive vers la fin de l'émission et on va glisser vers des anecdotes. On voudrait que tu nous racontes, si tu en as une en tout cas en particulier, une anecdote en particulier inédite sur ta carrière qui résume quand même bien ça. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'épisode dans le parking à enfiler des costards avant le rendez-vous avec les banquiers. Voilà, on est très friand de ce genre de choses.
Alors, pour finir l'anecdote sur le parking, donc on est allé. Alors, les parkings en Australie, c'est $18 l'heure. Hein, donc, c'est des trucs très, très aseptisés, très chouettes. Donc, on ne s'était pas engueulé, mais Brian, qui nous avait obligés à nous acheter nos affaires, nous a abandonnés. C'est un petit peu en voiture. Et donc, je suis resté avec Claude, l'autre, et on se changeait dans le parking. Et il y a une dame sur des talons qui est arrivée et qui a cru que c'était deux clochards qui étaient en train, qui avaient investi le parking et qui étaient en train de s'en servir là pour se changer. Et donc, appeler la sécurité. Et on s'est fait virer par la sécurité.
Excellent.
Dehors, messieurs, c'est pas un lieu pour se déshabiller ou changer. Voilà. Ça fait partie un peu des anecdotes. Après, des anecdotes de surf, si tu veux, t'as des tas d'histoires. Comme dire, faut pas mentir, t'as l'histoire. Nous, on était en contact avec la marijuana et tout ça. Avant, moi, je me rappelle arriver en Afrique du Sud où on t'offrait ce qu'on appelle la Durban Poison. Si tu veux, tu savais pas ce que c'était. Mais c'était même pas interdit à l'époque. Donc, on a connu toute l'époque fin hippie et tout ça, de ces voyages qui ont créé pas mal d'histoires, quoi, tu vois. Je veux dire, je sais pas, moi, des anecdotes. On était des jeunes, quoi. On voyageait à travers le monde. On avait cette chance-là, je veux dire, d'être multiculturel. On vivait avec. Mais j'ai pas d'anecdotes spécifiques qui me viennent à la tête maintenant, ou celles que je peux pas raconter, mais si tu veux. Mais ça, c'est pas. Non, je veux dire, on a la chance qu'on a eue, la grosse chance qu'on a eue, c'est de vivre de notre passion, c'est tout, tu vois. Alors, l'inconvénient que ça, c'est que le temps passe très vite. C'est-à-dire que quand j'ai l'impression que ça a commencé il y a 10 ans, alors ça a commencé il y a 40 ans. C'est-à-dire, c'est l'inconvénient de, mais personne va nous plaindre une fois de plus. Je crois que le surf, ça apporte beaucoup de choses. C'est une fantastique aventure. Je veux dire, tu es seul contre les éléments, après, il faut pas que ça te crée de la frustration. Tout ce que ça t'apporte, c'est un plus, quoi. Voilà.
Quand on parle d'anecdotes, forcément, dans une carrière aussi riche et complète que la tienne, il y a des anecdotes qui sont sûrement moins agréables. On aime les appeler les coups de pression. Est-ce que tu en aurais un à nous raconter version business?
Il y a une année, je te dis, non, c'est dire quand t'as les banques qui viennent te dire, monsieur, il faut vendre votre boîte parce que vous devez nous payer ou un truc, effectivement, t'as de la pression. Et quand tu commences une boîte, moi, au départ, la maison ici était la garantie bancaire. Donc, tu sais que si tu fais un faux pas, si le truc se retourne, on te prend ta baraque.
Tu étais bien perso, t'étais sous hypothèque pour la...
Hein? Ouais. Et puis, t'es là, tu dis, mais... Puis, un jour, après, quand t'es devenu assez gros et que c'est la banque qui a plus besoin que toi, tu leur dis, bon, voilà, on va enlever les hypothèques, on va enlever les trucs sur la maison et tout ça, les garanties. Ah, monsieur, si, vous allez les envoyer. Autrement, on va ailleurs. Donc, tu vois, ce sont des rapports de force. Mais j'ai pas de... C'est-à-dire, je me suis retrouvé en aventure au fond de l'eau. J'étais avec mon fils, on était au Mantawa et justement Iram. Il y avait une énorme vague qui arrivait. Donc, il devait avoir 13, 14 ans. Donc, tu penses à ton gamin, tu dis, putain, pourvu qu'il passe. Lui, il est passé. Et tu réalises que t'es 5 mètres derrière, et que toi, tu ne passes pas. Et là, la vague te casse dessus. Elle m'avait envoyé ma planche, mon short. J'étais à poil sous l'eau. Et si tu veux, et j'étais au fond de l'eau. Et donc, d'un moment de bonheur où tu surfes en famille, tu vois, tu te retrouves dans un moment catastrophique où t'es au fond de l'eau en train de te noyer. Et alors, ce qui est rigolo, j'ai voulu respirer. À un moment, j'ai eu marre, j'ai voulu respirer et ton corps te bloque. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai commandé. Moi, je voulais respirer. Le corps m'a bloqué jusqu'à ce que je sois revenu à la surface. J'ai pas pu respirer. Voilà, la surface, elle est pas loin. Alors, ça paraît très long quand t'es sous l'eau, mais ça a pas dû être très long. Et puis, je me suis retrouvé, sur le reef, si tu veux, à poil, en train de marcher. Voilà. Donc, si tu veux, c'est plus des événements comme ça qui te marquent au point. Je veux dire que le business, je dis pas, est anecdotique par rapport au surf, mais reste, j'ai pas vraiment de mauvaise mauvaises de mauvais souvenirs. La vie du business, effectivement, il y a des moments de tension avec les banques, tu as des moments, où il faut prendre des décisions. Je crois que le plus dur, effectivement, qu'on le veuille ou non, c'est quand on dit qu'il faut licencier des gens, quoi. Tu vois, t'es pas là pour ça, mais tu sais que c'est comme un arbre, tu dois couper des branches pour que l'arbre reparte de plus belle. Et là, c'est là où j'ai vu, si tu veux, qu'on a dû le faire aux États-Unis, en Australie et en France. Aux États-Unis, ça se fait, tu dis aux gens, lundi, vous êtes partis, ils sont partis. C'est-à-dire, en Australie, ça prend une semaine. En France, ça prend des mois et ça coûte très cher. Tu vois, après, c'est difficile. Moi, j'ai travaillé, donc j'ai jamais travaillé dans une boîte française, je travaille dans une boîte australienne. C'est très difficile aux Australiens de dire, on va réemployer des gens en France.
Ouais, ça les bloque un peu après.
Et il dit, attends, écoute, ça nous a coûté une fortune pour acheter les trucs. Il vaut mieux les employer dans d'autres endroits. Ou si tu veux, le marché du travail est beaucoup plus flexible. C'est ça. Donc, et comme j'avais pas d'expérience comparative, mais tu sais qu'effectivement c'est difficile à. Moi, je protégeais les intérêts français, mais c'est difficile à justifier. Si tu veux, c'est difficile à leur dire. Alors, il faut qu'on ait vraiment des spécificités, d'autres avantages. Alors après, t'as des avantages. Quand j'ai monté ma première usine ici, on a fait une usine relais, c'est-à-dire que la ville, la région nous a aidés. Ça, c'est quelque chose de positif. Là, pour le chanvre, on a reçu une grosse, grosse subvention parce qu'on va faire de la protéine végétale et qu'un des axes de développement, ce que veut la France et l'Europe, c'est qu'on devienne indépendant au niveau de la protéine végétale. Donc, effectivement, tu as des aides qu'on n'aurait sûrement pas aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est sûr. Mais bon, il faut savoir te dire, si tu veux être là, tu prends l'environnement tel qu'il est. Mais il y a des contraintes.
Ça, c'est... Comment surf s'adapter à son environnement?
Tout à fait, pas le choix. C'est une philosophie dans la vie, quoi, tu vois. Hein, je veux dire, si tu habites en Suisse, vouloir être un surfeur, c'est quand même un sacré challenge. Vaut mieux être un skieur, hein, je veux dire. Non, c'est pas moi, c'est pas. Ou alors tu changes d'environnement, quoi. Tu vois, mais...
Ok, bon, je crois qu'on est arrivé au bout de l'entretien, oui et non, parce que je pense qu'on aurait pu encore en parler pendant très longtemps. On a fait sans doute que survoler.
On a parcouru pas mal d'années.
C'est ouais, sûr. C'était ouais. Passionnant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur
Non, sur tout ce que je fais, c'est souhaiter dire aux gens que normalement on vit qu'une fois, sauf preuve du contraire. Alors donc essayer de vivre le mieux possible et vivre ce que j'ai eu la chance de vivre, c'est-à-dire sacrifier peut-être certaines choses pour vivre là où ils aimeraient vivre, dans un truc qui leur plaît. Alors souvent, le problème, c'est de trouver qu'est-ce qui nous plaît, c'est d'avoir une passion. Donc là, on avait la chance, dès le départ, d'avoir une passion. Ça, c'est, peut-être que c'est un peu le premier problème. Et par contre, on est très content d'avoir donné cette passion à plein de gens. C'est notre réussite. Notre première réussite, c'est ça.
Ce sera le mot de la fin.
Voilà.
Super.
Créer des passionnés.
Merci de nous avoir passionnés, d'avoir contribué à notre passion.
De rien, c'est un plaisir de vous recevoir. Et puis si on peut transmettre ce message, que ça peut aider qu'une personne même, ce sera une réussite.
Bon, et l'intégralité de l'émission, l'entretien avec toi, sera retrouvée sur insideroussima.com et sur les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et vous pourrez aussi retrouver tout ça sur les réseaux sociaux de Roussima. Merci encore, François.
De rien,
merci François.
À bientôt.
À bientôt.